Alors, je vais vous parler de cette personne qui est Conrad Henry Kiernan. C'est un batteur de jazz et de R&B. Il est né en 1927 à Los Angeles. Il est surtout connu pour son style de jeu assez discret et pour son set de batterie qu'on a parfois appelé exotique. Et il est aussi connu pour avoir, au cours de sa longue carrière, collaboré avec les plus grands noms du jazz. Alors citons comme ça Red Charles, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Stan Getz, Chet Baker, John Coltrane, Charlie Parker, Bill Evans, Herbie Hancock, Paul Desmond, Cannonball Carley, Sonny Rollins, Lester Young, Coleman Hawkins, Benny Goodman, et j'en oublie. Alors, il est aussi connu pour sa discrétion d'une façon générale dans la vie et pour sa classe. En fait, il était souvent habillé avec un nœud papillon. D'ailleurs, il doit avoir un nœud papillon comme le mien sur cette... Peut-être c'est une cravate sur cette photo. Je dirais que Connie Kay, on retient de lui au final peut-être une certaine idée de l'élégance. Alors, je vais retracer un petit peu sa vie. Et je vais la diviser en deux périodes. Alors, il passe la première partie de sa vie entre Los Angeles et New York. Il apprend le piano avec sa mère. Un jour, il emménage à New York. Je ne sais pas trop bien compris, mais il a fait plusieurs allers-retours. Il emménage à New York, il achète une batterie, il répète tous les jours, et il embête un petit peu ses voisins en faisant du bruit. Et puis, une semaine après avoir acheté cette batterie, il va dans un club de jazz, alors qu'il n'a pas tout à fait l'âge légal pour ça. Et puis, donc, c'est le Hans Red Rose dans le Bronx, et là, il n'y a pas de batteur. Le batteur habituel ne se pointe pas, alors donc le patron dit bah, « Est-ce qu'il y a un batteur dans la salle ?» Alors, Connie ne dit rien, mais il y a justement dans la salle le voisin qui lui est un peu emmerdé tous les jours et qui dit « Lui, là, je le vois, il s'entraîne tous les jours. » Et c'est ainsi qu'il se retrouve un petit peu forcé de jouer de la batterie ce soir-là. Et il commence à se faire engager, alors il joue pour 7$ la nuit, il accompagne d'autres musiciens, il joue pour des danseurs, pour des spectacles, etc. Et puis il commence à jouer un peu dans d'autres clubs, dont le Birdland, qui est un petit peu un truc dans lequel tous les grands noms sont passés. Et c'est au Birdland justement que le MC n'arrive jamais à dire son nom, donc Conrad Henry Kiernan. Et un jour, Conrad Henry Kiernan lui dit « Just call me Kay ». C'est ainsi que à partir de ce moment-là, dans sa vie, ainsi que dans cette conférence, nous l'appellerons simplement Connie Kay. Ah, voilà. alors, je vais passer un petit enregistrement qui est peut-être le premier enregistrement, je pense, le concernant. Il faut dire qu'à l'époque, quand il y avait des jam sessions le soir dans les clubs, il enregistrait parfois, et la plupart du temps, il ne faisait rien des enregistrements. Mais, dans les années 70, on a retrouvé un enregistrement de cette époque, avec parmi la dizaine de personnes qui jouaient à ce moment-là, entre autres bien sûr Connie Kay, mais aussi Dexter Gordon et Wardell Gray, qui sont deux saxophonistes ténors habitués à se faire des duels, enfin qui sont devenus connus par la suite pour se faire des duels de sax. Et donc l'enregistrement est sorti dans les années 70, mais historiquement c'est probablement le premier enregistrement dans lequel on entend Connie Kay. Alors je le passe, ça s'appelle The Hunt. C'est grosso modo un peu le bordel. Ça dure 15 minutes, enfin ça dure 30 minutes même en tout. Là, celui-là dure 20 minutes. Voilà, ils se courent tous un peu après. Je vais passer de tout petits extraits parce que j'en ai plein, donc je préfère passer des petits trucs, puis à la fin, si on reste à 5 minutes, je ferai mon best-of que niquer. Alors je vais passer à un autre pilier de sa vie, c'est pas tout à fait la deuxième période, mais un élément important qui est sa rencontre avec le label Atlantic Records. Alors Atlantic Records, ça existe encore aujourd'hui, c'est un label de R&B de l'époque. Mais à l'époque, c'était vraiment un tout petit label, c'était une salle un peu comme ça. Ils faisaient leur paperasse la journée sur des bureaux, et puis le soir, ils poussaient les meubles, et ils se servaient du milieu pour mettre des instruments et faire jouer des gens avec très peu de matos. Et ils avaient juste un truc d'acétate pour enregistrer, donc s'ils se loupaient, ils étaient obligés de toujours recommencer, il n'y avait pas de multipiste, donc c'était très, très roots. Mais ce label, il est réputé pour avoir sorti beaucoup de tubes à l'époque, et pour certains considèrent un peu le label comme le début du rock'n'roll, ou le pré-rock'n'roll un petit peu. Donc, notre ami Connie Kay se fait repérer un jour dans un club par des gens du label, il devient un peu le batteur récurrent du label. Il enregistre pour des tubes un peu comme... qu'est-ce qu'il y a ça, là, c'est pas... ouais, ok. Ce truc-là. Bon, ce truc-là, vous connaissez. Il y a 2-3 trucs un peu de l'époque assez connus qui sont sortis chez Atlantic Records. Alors, il se passe un truc assez rigolo chez Atlantic Records. À un moment, il est en tournée avec Frank Kelly, un saxophoniste. Il revient de tournée et Atlantic Records veut faire auditionner Frank Kelly avec The Clovers, qui est un groupe de R&B super d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est qu'ils se pointent tous ensemble. Il y a Connie Kay qui se pointe pour la batterie. Et il n'y a pas de bassiste. Donc on dit à Connie Kay, bon bah est-ce que tu peux faire semblant qu'il y aurait un bassiste avec ta batterie d'une façon ou d'une autre? Et alors il trouve une technique qui est de, plutôt que de marquer tous les contretemps avec la caisse claire, il marque que le deuxième, genre. Et le reste du temps, il fait comme une walking bass avec la, avec le kick. Donc c'est un peu un accident. Mais cette bande-là, qui est une démo, circule un peu entre les studios et tout le monde commence à appeler ça le Clover Beat, du nom des Clovers, le groupe. Et Connie Kay devient un peu, malgré lui, le spécialiste du Clover Beat. Et les gens réclament ça, même s'il y a une basse, en fait. Après, ça devient une espèce de marque de fabrique. Donc je vais vous passer 2-3 trucs de R&B de l'époque où il y a ce fameux Clover Beat. Je vais commencer par celui-là, Good Lovings. Il y a un bon budeux dans cette chanson. Un budeux. Je vais aller jusqu'au prochain budeux, puis je vais... c'est juste après, là. Style, bon, c'est à peu près le même principe. Et...
Godot ici.
Godot aussi, et puis il y a le Clover Beat qui est là, c'est juste plus lent. Mais... Comme là, c'est très longtemps. Y a un autre tube un petit peu de l'époque chez Atlantic Records qui. Une série de tubes par Joe Turner que vous connaissez probablement mieux sous le nom de Big Joe. le plus connu c'est celui-là, Shake, Rattle and Roll.
C'est quoi?
B.I.G. Joe.
Oh,
Sage, c'est un truc à ne pas confondre avec ceci. Voilà, je voulais juste le placer. Au passage, ce monsieur, Big Joe, il nous apprend aussi une petite leçon de réutilisation des idées. Donc il a fait Shake, Rattle and Roll, il a fait aussi Shout, Rattle and Roll, il a fait Flip, Flop and Fly, je vous mets un petit bout de Flip, Flop and Fly. Voilà, il a fait aussi ce truc-là. Voilà, j'en ai pris trois, mais il y en a un petit paquet comme ça. Toujours à peu près le même refrain. Je pense que je suis prêt à passer du coup à la deuxième partie de sa vie, qui est donc la rencontre avec le Modern Jazz Quartet. Là, c'est en 54, il est né en 27, donc...
Tu fais des maths, en 27, quoi.
24, 27.
27, justement. Ouais. Alors, je vais vous présenter le Modern Jazz Quartet.
Non, on garde les questions pour la fin.
Alors, à la 13e minute de la conférence...
Alors, grosso modo, c'est les... à la base, le Modern Jazz Quartet, il a été fondé 10 ans avant. C'est tous plus ou moins des anciens du Big Band de Dizzy Gillespie. C'était un side project de Gillespie à la base, et puis ils ont continué. Et là, ils n'ont plus de batteur, donc ils demandent à Connie Kay de leur faire la batterie sur une piste pour les dépanner. Ça devait être un plan d'une fois, mais finalement, ça s'est prolongé de telle sorte que Connie Kay les a suivis toute sa vie, presque jusqu'à sa mort. Et donc, c'est à partir de 27 ans, il s'engage dans ce truc-là. Ouais.
Il est où?
Il est là, ouais, je vous l'ai présenté dans l'ordre. À la contrebasse, Monsieur Percy Hayes. Au piano, John Lewis. Wow.
C'est qui fait les voix doubles?
Au vibraphone, bien sûr, il n'y a pas de voix, Milt Jackson. Yeah. Et enfin, le petit nouveau, bien sûr, à la batterie, Mr. Connie Kay. Yeah.
On est d'accord qu'en fait Connie Kay c'est deux nains l'un sur les épaules de l'autre en fait.
Alors la légende dit que c'est un seul mec. Mais
les gens ont dit que c'était un seul mec.
Des échasses de bras.
Oui, c'est ça. Des échasses de bras. Alors grosso modo, le Modern Jazz Quartet il s'est fondé à la base avec. Donc c'est Milt Jackson le vibraphoniste qui. Qui est un petit peu le mec qui a fondé le quartet. Je vais vous mettre une petite vidéo juste histoire de ne pas parler dans le vide, que vous voyez ce qu'ils font, et après je vous récapitule.
La délicatesse, ma chère. Oui, merci.
Ça, c'est des années plus tard, mais peu importe. Donc, c'est déjà Connie Kay qui est là à la batterie.
Ah oui, là, il est vieux.
Il est plus vieux, voilà. Ouais. C'est pas très chronologique là, la présentation. Mais... Alors, à la base, le Modern Jazz Quartet, il avait été fondé avec. Il y a deux personnes qui ont changé, mais à la batterie, c'était Kenny Clarke. Kenny Clarke, il est très connu, c'est le mec qui a inventé le style de jeu où on tape sur la cymbale ride tous les temps, en même temps que la contrebasse. Avant, les gens faisaient plutôt ça sur le charlet. Il faisait ça, et il faisait le truc qu'on appelait dropping bombs, c'est-à-dire il fait ça, et de temps en temps, de façon imprévisible, il met un coup de grosse caisse. Boum. Ça n'importe quand. Et grosso modo, lui et Milt Jackson, c'est des gens qui aiment bien improviser, qui aiment bien changer de structure sans prévenir, etc. Donc c'était ça le premier style du Modern Jazz Quartet. Mais au début des années 50, ils ont décidé de donner la main à la direction artistique à John Lewis, qui est le pianiste, qu'on voit de temps en temps, il est là-bas. Il est là. John Lewis. Et John Lewis, il a écrit des trucs hyper contrapuntiques, très inspirés de la musique baroque, avec des choses très écrites. Et du coup, Kenny Clarke, le batteur, qui lui était un peu qui était un peu du jazz, c'était du jazz plus hardcore, quoi, a commencé à dire: moi, si vous continuez à faire de la musique du 18e siècle, je me barre. Et ils ont continué à faire de la musique, discutablement du 18e siècle, mais plus contradictoire. Donc il s'est barré et a été remplacé par Koniké, qui lui fait beaucoup. Enfin, allait beaucoup mieux dans ce truc-là, parce qu'il est très obéissant, au contraire, il prend presque jamais de solo, il fait rien d'imprévisible, il fait des choses très sages. Il avait un surnom, j'y pense maintenant, qui était The Security Officer. Parce qu'il était... genre, il mettait des limites au groupe, il avait des comme ça, stabilité. John Lewis, donc le pianiste qui composait les chansons pour le Modern Jazz Quartet à partir de cette époque, faisait des choses très écrites, mais pour Koniké, il écrivait des mots sur la partition, genre ils écrivaient de l'aube. De l'aube, ça correspondait à un pattern qu'il avait entendu, ça veut dire le galop, donc je pense que ça devait être un truc comme ça. Et au lieu de mettre vraiment des notes, il lui écrivait des mots et ça correspondait à des patterns rythmiques qu'il devait faire. Je vais vous mettre 2-3 trucs de... J'en suis à peu près à la moitié au niveau du temps, en tout cas, c'est cool. Je vais vous mettre 2-3 trucs de... représentatifs du style du Modern Jazz Quartet. C'est un style qui s'est appelé, qui s'appelle encore un peu du chamber jazz. Comme si c'était de la musique de chambre, mais sous forme de jazz.
Alors, il y a genre ça...
Souvent, c'est les intros qui sont... J'avais mis plus fort que...
Ah, effectivement.
Il se bat.
Il se bat.
Ouais,
il y a des liens à la photo.
N'hésitez pas à y aller. Vous savez, dans le trac.
Il fait pareil.
C'est genre un...
Il se sert des coups, il retourne après.
C'est vrai.
Il laisse sa musique qui tourne, il se barre. Bon,
celui-là, je crois que c'est carrément une reprise de Bach. Ils ont fait quelques.
Ouais, voilà. Ah oui, clairement, ouais.
Jésus, que ma joie demeure. Contre Pétri.
Ah non, mon chéri.
Non.
Je marque ma joie des yeux.
Non. Je vous l'ai dit à la fin. C'est pour entretenir le suspense. Ouais.
J'ai majeur et toi, mais c'est bon.
Là, c'est le truc qu'on entend. Là, il joue de la batterie. Il joue ce qu'on appelle Bell Tree. C'est un arbre. Je dois avoir une photo de lui avec tous ses objets autour de lui. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il aimait bien jouer avec des. Souvent avec le triangle. Il fait toutes ses intros, enfin beaucoup d'intros au triangle. Il y a ce truc-là. Je pense que c'est ce qu'on entend là. Ling, ling, ling. Ça y ressemble pas, mais j'ai déjà vu des gens jouer avec des chaînes ou quoi dessus et ça fait un peu ce bruit-là. Il y avait parfois des darmonka aussi, des timbales d'orchestre, enfin des trucs un peu exotiques, il jouait beaucoup avec ça. Il jouait beaucoup aux doigts aussi. Avec les doigts, il faisait ça. Je pense que là, c'est peut-être aux doigts qu'il fait ça.
Non, pas juste les doigts.
Il joue du percussion. Moi, je suis batteur, mais j'ai pas de batterie.
Pas besoin.
J'en suis à 20 minutes, il me reste 10 minutes. J'aimerais bien vous passer J'ai essayé de trouver des. Ah oui, voilà, il y a celui-là. J'ai essayé de trouver des solos. Des solos de Koniké. Il y en a très très peu parce qu'il prend jamais de solo, quoi. Il fait juste. Très sage, mais quand il prend des solos, là j'ai trouvé un morceau où genre il y a un solo presque continu de batterie et c'est hyper bizarre. Enfin moi je trouve ça très bizarre, vous allez voir. Voilà, c'est une reprise de Duke Ellington.
Ah,
thank you.
un solo un peu réel qui va commencer.
Solo de cymbale.
Solo de hi-hat.
On écoute le solo, on... non, on lâche pas l'affaire.
On lâche pas l'affaire.
C'est une blanche, je pense.
Ça va.
T'as
fermé
la table,
c'est bon, t'as fermé
derrière
toi.
Ouais, j'ai fermé quand?
Ah, moi j'en ai fermé quand aussi.
C'est un peu humide, mais il y a un point comme
ça. Ah oui, fais gaffe, ouais. T'as le point de milieu.
Tour de lutte.
Professeur Vanda.
C'est un bizarre quand même. C'est... Allez, fais un solo. Ok.
Bon, oui, ça fait un peu ça. Allez, d'accord, d'accord. Et ça pourrait être très écrit comme, en fait, comme solo.
Oui, je pense que ça l'est en partie, ouais. Ouais, ouais. C'est... Mais en tout cas, c'est pas, il se lâche pas beaucoup, quoi.
Pas
mais d'une façon générale, je... Ouais. Ça, je crois que sur celle-là, il y a une petite intro au triangle aussi.
Chut, j'insiste.
Tu gagnes le bras.
C'est encore l'un de ces morceaux où l'intro est vraiment super, je trouve. Il y a beaucoup de morceaux, ils ont des bonnes intros assez discrètes. Après, ils se mettent à faire des choses plus classiques, mais souvent tout le contrepoint et tout, il est dans l'intro. J'approche grosso modo 30 minutes. Je vais un peu conclure. Pendant toute la dernière partie de sa vie, il a suivi le. Il a suivi le Modern Jazz Quartet, il a fait quelques trucs de rock. Il y a une anecdote assez rigolote. Donc lui, Percy Hayes, le bassiste qui était de l'autre côté sur la photo, ils ont enregistré un album avec George Harrison parce que pendant un moment ils étaient sur Apple Records, le label des Beatles, et ils ont perdu les bandes de cet album, donc il n'est jamais sorti. Voilà, c'est la vie. C'est assez rigolo qu'un truc genre avec des mecs bien en vue disparaissent, mais bref, ça arrive visiblement.
Non, mais ça va ressortir un jour, à la mort de...
Ils ont perdu les bandes. Ils ont perdu les bandes. Non, ils sont tous morts. Bah, ils ont déjà sorti un album hommage à Connie Kay après sa mort en 94 d'un arrêt cardiaque.
Tu fais les maths toi-même, ça suffit.
Moi,
non,
c'est
toi.
Plus de 27. Plus de 27.
Plus de 27.
J'ai oublié.
Voilà, eux, ils se sont séparés une fois, ils se sont remis ensemble dans les années 80 et ils ont fini presque jusqu'au bout.
C'est-à-dire les deux nains.
ils sont 5 du coup en tout cas. C'est lui, c'est son surnom, c'est Milt Bugs Jackson. Il y a ce thème de blues très connu qui s'appelle Bugs Groove. C'est pam 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 pam. Ça trois fois. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est plein de gens ont joué ce truc-là. Bugs Groove, c'est en référence à lui parce que Bugs, parce qu'apparemment il avait des poches sous les yeux. Moi je trouve pas qu'il ait des poches sous les yeux, mais c'est genre les.
C'était juste du maquillage, c'était
juste un personnage. Je propose de finir en mettant un dernier truc de R&B de l'époque Atlantic Records. Et normalement ce sera pile le temps pour finir sur 30 minutes. Le temps que je le trouve. Allez, c'est ça, c'est une chanson de Noël. C'est White Christmas. Le single le plus vendu, pas cette version-là, mais la version originale. Je crois que c'est le single le plus vendu du monde. De Yardbirds, il me semble.
Je sais pas si c'est quoi maintenant.
Non, maintenant.
Ah oui. Oui, non, mais c'est méga, oui, c'est méga connu.
Et ben voilà. On est toujours dans le. Et on reste dans le tellement sorcière bien aimé des ouais, années 50-60 à mort. Ouais.
C'est moi là
Yann,
c'est toi. Professeur.
Je vous prie d'accueillir notre second conférencier. Il n'est d'autre que notre hôte ce soir, Antoine. Éteignez s'il vous plaît vos téléphones portables.
Un peu de silence.
Restez calme. C'est le moment, j'ai une bière, un rose. Ah, je vous prie d'accueillir Antonin Ferré.
Yeah. Ah, mais c'est temps de me préparer quand même.
Ah, ça, c'est quoi?
Je connais plein de façons de le
voir. Ouais, non, mais le nom du thème.
Il est pas. Je sais même plus.
Des codes de piste.
Ouais, mais en fait, qu'on le fait dans l'ordre alphabétique.
Ah, c'est vrai. Léance, quelque chose.
T'as une clé USB, t'as un truc? Faut le brancher sur le PC en bas. Ouais, mais faut le faire au moment où on arrive au L. Faut pas oublier que c'est peut-être toi en fait.
Ok. Attends, c'est quoi ce que je veux dire exactement?